Conférence privée sur l'Apocalypse par le père Philippe à Rimont, le 19 février 1986.
On fera un cours assez court ce soir, parce que il y a le train qui n'attendra pas. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, parce que comme il y a un fond vaste, je rappelle que nous avions commencé à lire l'Apocalypse et à entrer dans ce grand mystère de l'Apocalypse pour inviter ceux qui n'ont jamais lu l'Apocalypse de se mettre à lire l'Apocalypse. C'est un très beau livre. Il vaut mieux pas le lire le soir. Parce que ça peut donner des rêves extraordinaires, des rêves apocalyptiques. Alors quand on est réveillé avec des rêves apocalyptiques, on croit que c'est la fin du monde. Puisque l'Apocalypse est là pour nous préparer au retour du Christ. C'est pour ça que c'est très actuel. Vous voyez, quand le pape parle qu'il faut se préparer à l'an 2000, je ne sais pas ce que le pape a derrière la tête, je n'en sais rien, me l'a pas dit, il ne me l'a pas dit non plus, donc nous pouvons se dire que le pape nous demande de nous préparer au retour du Christ, pas nécessairement à l'an 2000, mais peut-être à l'an 2000 et une année, parce que ça commence à brûler après l'an 2000. Alors l'Apocalypse se divise, je dis ce qu'on a vu avant, très rapidement. Une entrée en matière qui est très belle, où on voit la grande vision de Jésus dans la gloire. Et Jésus, grand prêtre, chapitre 1, verset 9. Et on voit la correction des sept églises, les sept églises johanniques. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Vous pouvez regarder sur une carte, vous verrez bien ces différentes églises. C'est impressionnant du reste, quand on va en Asie mineure, de voir ce qui reste de ces églises. Éphèse, c'est l'église de Jean par excellence. C'est la véritable église johannique, Éphèse. On sent très bien l'amour tout à fait particulier de Jésus pour Éphèse. Mais il y a un reproche, c'est qu'Éphèse n'a pas gardé la ferveur du commencement. Et ça, c'est très important. On voit que Jésus est particulièrement sensible à cela. Au début, au noviciat, on a des grâces de ferveur. C'est normal, puisque c'est le début. La difficulté, c'est de garder cette ferveur toute sa vie. Comme si tout le temps on recommençait un noviciat. Et c'est très beau de recommencer tout le temps un noviciat, le noviciat du Saint-Esprit. Vous voyez, tous les jours, on doit naître à la vie divine. Donc tous les jours, on doit naître de cette ferveur à la naissance à la vie divine. C'est ce que l'église Éphèse montre. L'église Éphèse, c'est l'église de Marie et de Jean. On ne sait pas si Marie a quitté cette terre à Éphèse ou à Jérusalem. Vous savez bien, il y a deux grandes traditions diverses et des théologiens, des historiens qui soutiennent aussi bien l'un que l'autre. Je ne vois pas les autres églises, elles sont sept, c'est le grand examen de conscience des sept églises. Ça devrait nous aider, dans un catéchisme tout à fait moderne, de nous donner ce que c'est que l'examen de conscience. On devrait prendre l'examen de conscience des sept églises. Là, on aurait un examen chrétien et apocalyptique, c'est-à-dire qui nous préparerait au retour du Christ. Parce que c'est très beau de voir la manière dont Jésus corrige les églises. Je me souviens avoir assisté une fois, c'était en Suisse, à ce qu'on appelait la rencontre des étudiants catholiques et protestants. C'était sur la réforme de l'Église qui m'a beaucoup étonné. C'est que personne n'a parlé de la correction du Christ aux Églises, alors que c'était le lieu par excellence. Jésus seul peut corriger l'Église. Jésus et le Saint-Père. Un fidèle n'a pas le droit de corriger le pape. Écrire une lettre ouverte au pape, c'est un peu déplacé. C'est vrai, on a à lui porter. De la mettre au public comme ça, c'est un peu un manque de piété filiale. Mais ces gens qui corrigent cette Église. Puis nous avons ensuite ce qu'on appelle proprement l'Apocalypse, avec le chapitre 4, la grande vision de la très sainte Trinité. La grande vision du Dieu créateur avec les 24 vieillards et la vision de la très sainte Trinité. Et on voit l'agneau portant ce petit livre des sept sceaux. Et personne ne peut ouvrir les sept sceaux. Jean pleure, les pleurs de Jean, parce que personne ne peut ouvrir les sept sceaux. Et on voit l'agneau qui va ouvrir les sept sceaux, l'agneau comme immolé. L'agneau, c'est Jésus dans son état d'immolation. Alors ça, c'est très important pour nous faire comprendre que le mystère de la prédestination se réalise à travers le cœur blessé de Jésus. Nous sommes prédestinés à être enfants de Dieu à travers le cœur blessé de l'agneau. C'est comme cela que le Père nous regarde. Il ne peut pas nous regarder en dehors du cœur blessé de Jésus. Alors ça nous donne une très grande confiance, là. Parce que nous sommes enveloppés toujours du sang de Jésus. Et donc du sang du pardon, du sang de la miséricorde. Nous avons une victime de propitiation, comme dira saint Jean dans sa première épître. Cette victime de propitiation, c'est Jésus en tant qu'il est immolé. Après le mystère des sept sceaux, nous avons les sept trompettes. Alors nous avons lu la dernière fois jusqu'à la cinquième trompette, je crois. Je reprends pour les nouveaux, les mystères des trompettes. Alors, il faut bien comprendre ce que c'est que les trompettes. Les trompettes, c'est le symbolisme de l'exécution. On comprend très bien. On donne un signal d'alarme. Allez, départ. Alors, c'est les trompettes. Tout le monde est prêt, et puis il y a le signal. Et là, il y a sept anges préposés aux sept trompettes. Ce qui est difficile, c'est de comprendre d'où viennent les exécutions. Alors, est-ce qu'il faut faire comme pour les sept sceaux, en voyant les sept sceaux comme les sept dimensions du regard de Dieu sur nous? Les sept dimensions. Dieu nous regarde dans un regard de sagesse qui est simple pour Dieu, et qui est complexe pour nous. Il est comme la lumière. Et dans la lumière, il y a les sept couleurs. Alors, on voit très bien comment le regard de Dieu implique ces sept déterminations. Je crois que c'est cela, en premier lieu. En second lieu, c'est aussi la manière dont l'Église se développe à travers le temps. Ça, c'était une interprétation qu'on a donnée. Elle est beaucoup plus tardive. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont interprété l'Apocalypse. Alors, on est très, très libre. C'est vrai, il y a peu de pères de l'Église qui ont interprété l'Apocalypse. Et peu de théologiens. Saint Thomas a commencé, n'a pas terminé. Alors, il y a aussi ce fait que c'est à travers le temps. Donc, on serait peut-être à la dernière église, ou l'avant-dernière. On peut trouver comme certaines manières de regarder l'histoire de l'église, les sept lumières de l'histoire de l'église. C'est très beau à regarder de cette manière-là. Le cheval blanc, vous voyez, on voit très bien les actes des apôtres. La grande chevauchée jusqu'au Rome. C'est très beau. Puis alors, successivement. Je crois qu'il y a les deux aspects. Parce que le propre du symbole, c'est d'avoir des significations différentes. Alors, il y a une signification en profondeur et une signification en extension. C'est assez normal. Puisque c'est un regard divin. Les trompettes, c'est l'exécution. Alors, je crois que l'exécution, ça ne peut pas être les sept en même temps, vous voyez. Ça ferait une espèce de chahut extraordinaire. C'est plutôt les sept successivement. Parce que c'est de l'ordre de l'exécution. Alors, c'est les sept successivement pour toute l'Église et pour chacun d'entre nous. Je crois que dans la vie de chaque chrétien, les sept trompettes se trouvent réalisées. Et plus on s'approche du terme, plus elles se trouveront réalisées profondément. Vous voyez, attraper telle ou telle maladie, n'est-ce pas ? Ben, ça fait partie des trompettes, ça. Et il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Une hépatite virale B, sûrement ça fait partie des trompettes, ça. Je suis persuadé. Je ne sais pas quel sorcier qui envoie ça, qui est particulièrement docile à tel ou tel démon. Alors, ce qui est très particulier dans les trompettes, c'est que c'est très difficile de voir et de remonter à la source. On voit le résultat. Je donne exprès l'exemple. Quand vous avez un accident de voiture, évidemment, il y a des accidents de voiture qui relèvent très nettement de l'imprudence du conducteur, et tout le monde est d'accord. Mais cette imprudence du conducteur, est-ce que c'est le démon qui a donné un coup de patte à ce moment-là? Est-ce que c'est un manque d'attention? Est-ce que c'est un manque de prière? Difficile après à dire ça. Il y a des accidents auxquels c'est la faute de l'autre. Il y a toujours bon dos, ce qui n'est pas ici. Alors l'autre, qui les a agressés. Puis quelquefois, c'est l'accident absolument imprévisible. Une flaque d'eau gelée, qu'on n'avait pas vue, puis qui nous a fait déraper. Alors est-ce que ça provient du démon? Le démon est plus présent dans notre vie que nous ne pensons. Hein. Ça, c'est sûr. Il ne faut pas le voir tout le temps. Hein. Faut pas dire qu'il est ici, par exemple. Hein. Non, il a trop peur. Hein. Il a trop peur, là, il n'est pas ici. Mais il peut se tenir à la porte, là-bas. Mais il n'est pas ici, ne craignez pas. Ici, il n'y a pas de danger. Aucun danger. C'est-à-dire que dans la campagne non plus, sauf quand il a des petits porcs, alors il aime bien ça. C'est... Autrement, c'est très difficile de savoir la présence du démon. Il ne faut pas le voir partout, mais il faut savoir qu'il ne dort jamais. Donc il est toujours éveillé. Et il est toujours en état d'alerte. Et le démon se sert d'instruments. D'une quantité de choses pour nous faire dérailler, pour nous faire perdre du temps. Il aime beaucoup qu'on perde du temps. Il aime beaucoup qu'on décolle un peu. On ne sait plus très bien où est le réel. On ne sait plus très bien ce qu'on fait. Perdre le sens de notre vie, par exemple. le sens de l'orientation de notre vie. Ça, il aime beaucoup ça. C'est un dilettante parfait. Et il aime le dilettantisme. Il le favorise. Nous empêcher d'adhérer au réel. Nous empêcher d'être vraiment finalisés. Et puis, les beaux anges agissent. Et Dieu nous protège, heureusement. Pas un cheveu de notre tête ne tombe sans que le Père Céleste le permette. Alors vous voyez, ceux qui sont commencés à être chauves, c'est comme Dieu a été présent. C'est merveilleux de voir comment Dieu a une présence merveilleuse d'amour. Mais Dieu est présent même pour ceux qui ont encore tous leurs cheveux. Mais c'est un exemple que le Seigneur nous donne pour que nous comprenions ce que ça veut dire. Alors, dans le point de vue concret de la vie, c'est très difficile de savoir si ça vient d'un bon ange, si ça vient du démon. Vous voyez, vous sortez d'ici, vous recevez une tuile sur la tête. Est-ce que c'est le démon? C'est possible. Est-ce que c'est le bon ange? Je ne crois pas. Mais ça peut être, vous voyez, un effet du hasard. Le démon se sert du hasard. Et il aime qu'on considère que tout vient du hasard. Parce qu'alors là, il s'infiltre comme il veut. Alors, je vais lire avec vous, on va relire ensemble, les sept trompettes. Le premier sonna de la trompette. Il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut consumé. Et le tiers des arbres fut consumé, et toute herbe verte fut consumée. C'est pas l'œuvre des bons anges, ça. Je crois que c'est une permission que Dieu donne aux démons. Alors il faut comprendre symboliquement la grêle et le feu mêlé de sang. C'est pas la grêle qui tombe, hein. Parce qu'alors dès qu'il y a de la grêle, vous dites voilà, première trompette. Non, c'est pas ça. C'est la grêle. Il faut le prendre symboliquement. Du reste, toute l'Apocalypse, quand elle raconte ses malheurs, c'est toujours symbolique. Alors, la grêle prise symboliquement, c'est quelque chose qui vient s'abattre lourdement pour briser les élans. Les printemps, la grêle est terrible au moment des petites pousses ou quand la vigne commence, après d'être fleurie, commence à se former les raisins. Et du feu mêlé de sang, là encore, c'est pour montrer une influence pernicieuse sur, je crois, le sens et l'âme, comme il est dit dans la Bible. Donc, c'est d'ordre psychologique qui peut jeter sur la terre. La terre, ne l'oublions pas, dans le sens de l'Apocalypse, les hommes de la terre, c'est ceux qui ne regardent jamais le ciel. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de regard vers Dieu. Ce sont ceux qui oublient Dieu. Et c'est pour ça que ces sept sceaux, il est bien montré que c'est à l'égard de la terre. Le tiers de la terre fut consumé. Et le tiers des arbres fut consumé. Et toute terre verte fut consumée. Vous voyez, c'est contre la vie. La grêle, le feu mêlé de sang. C'est pour détruire le printemps. Je crois que c'est ça, l'herbe verte. Nous avons de l'herbe verte toute l'année, mais là-bas, quand il s'agit de Patmos, il n'y a pas de verte toute l'année, donc c'est le printemps. C'est la destruction, je crois, de l'espérance. Le printemps, c'est l'espérance. Voyez, et ça commence comme ça. Et je crois que c'est comme ça que fait le démon. Ce sont des secousses qui veulent détruire l'espérance. Une des grandes attaques du démon sur nous, au niveau extérieur comme au niveau psychique, c'est de toujours nous conduire au désespoir. Ça, c'est la marque du démon. Il nous conduit au désespoir. De plusieurs façons. Ici, c'est la destruction assez massive de tous les élans premiers de vie. Alors quand il y a eu plusieurs échecs comme ça, successifs, on commence à désespérer. Si on n'est pas uni à Marie, c'est pas pour rien qu'on dit Marie est notre espérance. C'est Marie qui nous empêche de tomber dans cette espèce de désespoir. Et le deuxième ange sonna. Vous voyez, les anges sonnent. Et les anges sont en dépendance directe de Dieu, les bons anges. Et les mauvais anges agissent. Parce que le démon n'agit sur notre petite planète et sur nous qu'avec la permission de Dieu. Et je crois que les sept trompettes montrent ces sept permissions de Dieu. Oui, c'est la théologie des permissions de Dieu. Et donc des attaques sur les différents aspects sur lesquels le démon peut attaquer. Et le deuxième ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne brûlée par le feu fut jetée dans la mer. Les secousses profondes de notre petite terre. Et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut. Et le tiers des bateaux fut détruit. Vous voyez, la mer, symboliquement, c'est la source de la vie. Donc il y a quelque chose qui va plus loin ici. On n'attaque pas seulement l'élan de vie, on attaque la source. On verrait très bien aujourd'hui certaines applications assez nettes de ça. Et quelque chose comme une grande montagne brûlée par le feu. Alors, est-ce que cette grande montagne brûlée par le feu, c'est l'orgueil collectif des hommes, de la science? Moi, j'interprétais assez bien volonté comme ça. La montagne, c'est toujours l'orgueil des hommes. Et un orgueil brûlé par le feu, donc particulièrement virulent, comme une grande montagne brûlée par le feu, fut jetée dans la mer. Vous voyez, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On voit comment ça existait tous les temps. Mais nous interprétons l'Apocalypse pour nous. Je n'interprète pas pour le Moyen-Âge. J'interprète pour nous. L'Apocalypse était vrai du temps de Jean. L'Apocalypse était vrai du temps de saint Thomas. L'Apocalypse était vrai au XVIIe siècle. Et l'Apocalypse est vrai aujourd'hui. Et elle prend aujourd'hui une signification encore plus forte qu'avant. Alors le tiers, toujours le tiers, pour montrer que le démon ne fait pas ce qu'il veut. Il y a des zones préservées par Dieu. L'influence du démon, Dieu permet. Et comprenez ça un tout petit peu comme quand il y a un ouragan, vous savez, dans une forêt, un cyclone. On voit le passage du cyclone. Et à côté, rien. Et il y a un petit peu comme ça. C'est des choses très curieuses, ça. Il y a des passages du démon comme ça. Durant l'année mariale, le démon est particulièrement déchaîné parce qu'il ne peut pas accepter cette influence de Marie plus forte. Où Marie agit avec une intensité plus grande. Il ne peut pas accepter ça. C'est pour ça que l'année mariale, forcément, a les deux aspects. À la fois une très grande grâce pour ceux qui veulent la recevoir, et pour ceux qui résistent, des déchéances beaucoup plus rapides. Je crois que c'est le propre des années de grâce. Il y a ce point de vue-là. Et voyez, ici, c'est rapide hein, comme déchéance. Une grande montagne brûlée par le feu fut jetée dans la mer. C'est terrible. Alors, vous pouvez l'entendre au niveau de la vie humaine, parce que l'Apocalypse est écrit pour les hommes. La grande montagne, grand orgueil collectif de l'humanité, qui est jeté dans la mer. Vous pouvez l'entendre au plan spirituel et surnaturel aussi. Une grande montée d'orgueil qui vient supprimer ce que représente l'exigence de l'amour du cœur de Jésus. Fut jeté dans la mer. Alors la mer ici, ce serait presque Marie, vous voyez. Et le tiers de la mer devient du sang. Alors, la mer qui normalement est la source de vie, le sang répandu, c'est la mort. Le sang séparé du vivant, c'est le signe de la mort. C'est pour ça que vous n'aimez pas beaucoup de voir du sang versé. Et certaines personnes ne peuvent pas supporter de voir du sang versé. C'est vrai, c'est toujours très désagréable. C'est un signe de mort. Un signe de mort violente. C'est un signe de mort violente. Et là, c'est la mort violente ici. Le tiers de la mer devient du sang. La mer qui, normalement, est source de paix. C'est vrai. Alors, c'est l'inverse qui se passe. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et avaient vie mourut. Et le tiers des bateaux fut détruit. Alors le bateau, c'est l'outil, c'est l'efficacité, c'est l'efficience. C'est plus la vie, c'est la technique. Du temps de Saint Jean, les bateaux représentent ce qu'aujourd'hui les avions représentent. Toute la technique était réfugiée là. Et alors cette attaque touche jusque... Les bateaux furent détruits. Et le troisième ange sonna de la trompette. Il tomba du ciel une grande étoile qui brûlait comme une torche. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Et le nom d'étoile était absinthe. Vous savez tout ce qu'on a dit ces derniers temps là-dessus. Mais ça ne m'impressionne pas beaucoup. Je crois que c'est beaucoup plus symbolique que ça. Et le tiers des eaux tourna en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent de ces eaux parce qu'elles étaient devenues amères. L'étoile, selon le symbolisme de l'Orient, c'est toujours la doctrine. C'est les docteurs qui sont des étoiles dans l'Église. Et c'est ce qui illumine, ce qui indique l'orientation pour la contemplation. Alors, quand les étoiles tombent, il tomba du ciel une grande étoile. C'est la chute de ceux qui devraient être des témoins de lumière et qui deviennent la proie du mensonge. Et qui brûlent comme une torche. On voit très bien. Des toiles, ils sont devenus torches. C'est-à-dire, toute leur ardeur est tournée en sens inverse. Et alors elle tomba sur le tiers des fleuves et des sources d'eau. C'est encore la vie, ça. Et donc, vient supprimer ces jaillissements de vie. Et alors, le nom de l'étoile était absinthe. c'est l'amertume. Qu'est-ce qui est source de ces chutes? L'amertume. On a été blessé dans sa vanité, dans son orgueil. Et ces blessures nous mettent dans l'amertume. Vous savez, les anciens parlaient de la cédie. La cédie, c'est ça. Ça met de l'acide dans le cœur. À la place d'être dans la joie, on est toujours dans une attitude de critique, dans une attitude amère. Parce que les choses ne vont pas dans notre sens. Ça ne se réalise pas comme on l'aurait voulu. Au plan spirituel, ça me semble assez net. Et quand on voit combien certains théologiens qui étaient appelés à être des étoiles ont dégringolé, et le mal qu'ils font sont des torches. Et quand la mère de Saint-Dominique attendait son enfant, et eut la vision d'un chien portant une torche. Il symbolise de l'apôtre. Et ici, on sent bien, c'est juste inverse. Mais quand on voit ces influences, c'est vrai, on est très frappé de voir cela. Combien ça fait une espèce de courant, d'appel, d'air. Et ça vient de cette espèce d'amertume qui se répand. De déception. C'est ça l'absinthe. Symboliquement. Ça donne une fausse vigueur. C'est vrai, ça donne une fausse vigueur. À première vue, ça donne la vigueur. Mais en réalité, ce n'est pas une vraie vigueur. Alors je crois qu'on peut l'appliquer aussi au niveau biologique, au niveau de la vie humaine. Alors ici, l'étoile, c'est l'intelligence. Au niveau philosophique, si vous voulez. L'étoile, c'est l'intelligence. On est fait pour la lumière. On est fait pour la vérité. Et notre intelligence a besoin de cela. Alors, quand l'intelligence n'est plus ce grand élan et qu'elle est repliée sur elle-même, alors à ce moment-là, elle n'a plus sa finalité. Et c'est l'amertume. Et le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, pour qu'ils s'obscurcissent d'un tiers, et que le jour ne brillât plus d'un tiers, et la nuit pareillement. Alors le soleil, c'est toujours le Christ. La lune, c'est Marie. Et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, les étoiles, tous les théologiens. Pour qu'ils s'obscurcissent d'un tiers. Donc, il y a une espèce d'occultation du mystère de Jésus, du mystère de Marie, de ce que représentent les vrais témoins du Christ et de Marie. Tout ça est occulté. Tout ça est caché. Pour qu'ils s'obscurcissent d'un tiers. Et que le jour ne brilla plus d'un tiers et la nuit pareille. Voyez donc, on voit les permissions de Dieu à l'égard de l'action sur l'univers et sur chacun d'entre nous. Sur tous les hommes, sur chacun d'entre nous. Je crois que c'est sur l'homme qu'il faut interpréter. Parce que c'est l'homme qui est le jeu de la tout. Les trois malheurs. Et je vis, et j'entendis un aigle volant au zénith. dire d'une voix forte « Malheur, malheur, malheur » à ceux qui habitent sur la terre, à cause des autres voix de la trompette, des trois anges qui vont en sonner. Là, on va entrer dans une lutte encore plus forte, comme si cette première lutte était un peu périphérique. Et nous entrons dans quelque chose alors de beaucoup plus profond. Alors, l'ange qui vole au zénith, est-ce que ce n'est pas Marie? Est-ce que c'est pas... Ça ne peut pas être Jean? Est-ce que c'est pas Marie, cet aigle volant au zénith? Je ne crois que ça peut être que Marie. C'est Marie qui annonce la fin, toujours. Marie a préparé la venue du Christ, et Marie annonce le retour du Christ. Et avant le retour du Christ, le démon, sachant que ses jours sont comptés, est particulièrement furieux. Et c'est pour ça qu'il y a ces trois malheurs. C'est la triple action du démon. Et faisant l'anti-trinité. Et agissant de cette manière particulièrement virulente à ceux qui habitent sur la terre. Donc, encore une fois, ce sont ceux qui ne sont pas liés à Marie, liés au Christ, qui sont les premiers à recevoir tout cela. Ceux qui sont liés à Marie et au Christ sont beaucoup plus forts. Et donc, ils font tout de suite le discernement. C'est pour ça que c'est le tiers. C'est ceux qui volontairement ont supprimé toute possibilité de répondre aux attaques du démon. Alors, la fois prochaine, je vous invite tous.